Voilà, bonsoir. Nous voici partis pour le dernier round. Donc, vous avez vu que nous avons parcouru plusieurs textes de l'Écriture sainte avec toute une série de questions concernant la réalité familiale. Et je pense que, au terme de ces différentes interventions, vous avez, comme moi, peut-être l'impression qu'il y a encore beaucoup à scruter, à apprendre, que ce n'était que le début de l'apéritif. Alors, nous avons quand même pu affronter une série de textes fondateurs et fondamentaux, et beaucoup de choses ont pu être exprimées à travers ces différents récits, mais c'est clair que le mystère de la famille, étant un reflet de la vie trinitaire même de Dieu, est un mystère complètement insondable, fondé sur le mariage sacramentel. Il est signe et moyen de l'union du Christ et de l'Église, et de ce point de vue-là, on n'a jamais assez d'une vie pour le méditer, pour en voir les différents aspects. Je voudrais aujourd'hui conclure ces différentes leçons en considérant le mystère de la Sainte Famille. Il y a évidemment plusieurs portes d'entrée à ce mystère. Je vous propose notre porte d'entrée habituelle, certains textes de l'Écriture. J'en ai choisi deux, peut-être trois. J'aurais pu en prendre d'autres. À savoir l'Annonciation faite à Marie, l'annonce faite à Marie en Saint-Luc, que nous connaissons par cœur pour l'avoir entendu un nombre impressionnant de fois, en tout cas pour la plupart d'entre nous, et ensuite l'annonce faite à Joseph, selon saint Matthieu. D'accord ? Et je ne prétends pas, encore une fois dans cette leçon, dire tout sur la Sainte Famille, mais donner l'un ou l'autre aspect. En tout cas, nous laisser enseigner par les textes évangéliques. Alors, je commence l'annonciation, le grand texte de l'Annonciation en Saint-Luc. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. Au verset 26 et 27, donc je suis ici en mon point A, premier point, une vierge fiancée à un homme. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, et le nom de la vierge était Marie. Marie, dans ce petit verset, n'est pas présentée indépendamment de sa relation avec Joseph, comme une sorte de femme qui se penserait et qui serait autosuffisante, purement autosuffisante. Non, elle est d'emblée présentée par saint Luc comme vierge et fiancée. Et c'est à l'intérieur de cette relation qu'apparaît leur nom à tous deux. D'abord celui de Joseph, puis celui de Marie, dans une proximité bouleversante. Donc, je redis le texte. Hein. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Alors, quel est le premier personnage qui est présenté ? À une vierge fiancée à un homme. Voilà, ça, c'est la première partie du à une vierge fiancée à un homme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire simplement qu'on met, avant même de les nommer, on nomme leur relation. Saint-Luc nomme leur relation. Quel type de relation ils ont ? Et quel est le nom qui vient en premier ? Non pas celui de Marie, mais c'est Joseph. Après avoir nommé la relation, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, et le nom de la vierge, de nouveau La virginité, c'était une forme de relation. Souvent, on pense que la virginité est une absence de relation. C'est comme ça que les choses sont imaginées, une sorte de vide relationnel. Non, la virginité est profondément un mode relationnel aux autres. Et le nom de la Vierge était Marie. Donc, dans la structure littéraire même de la phrase, vous avez un enseignement d'une richesse vraiment bouleversante. Hein. La relation, le nom de l'homme, et puis le nom de la femme. Le nom de Marie et Joseph nous sont donc révélés qu'après avoir décrit leur relation, comme si ceci ne nous était intelligible qu'à partir d'elle. On peut comprendre Joseph qu'à partir du moment où on a compris sa relation avec Marie, et réciproquement. Je suis ici en train de développer une intuition que j'ai reçue en fait à l'âge de 15 ans à Lourdes, je m'en souviens très bien. Le prêtre qui prêchait a dit, en fait, avec un air très mystérieux comme ça, si vous voulez comprendre qu'est la Vierge Marie, c'est du côté de Saint Joseph qu'il faut regarder. Marie, Joseph est le gardien du secret de Marie. Moi, j'étais à 15 ans étonné par ce type d'intervention. Mais ici, maintenant, bien plus longtemps plus tard, je développe cette intuition que j'ai entendue sous un aspect, un halo de mystère. Hein. La compréhension du mystère de la Vierge Marie, de Marie, c'est Joseph qui nous le livre, et réciproquement. Et leurs noms sont donc reliés et à la fois séparés par le type de relation qu'ils entretiennent, le nom de la Vierge. Alors, là derrière, le mot Vierge, hein, Marie n'est pas présentée comme une vierge parmi d'autres, mais la vierge annoncée en Isaïe 7,14. Nous sommes dans les années 740-700 avant le Christ. Voici que la vierge concevra et enfantera un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Le nom hébreu, Alma, désigne plutôt, non pas le nom de vierge, mais de jeune fille nubile. Donc, derrière ce nom, la virginité est, quand elle est nubile, elle est non mariée, la virginité est sous-entendue, mais lorsque le nom est simplement jeune fille, la virginité n'est pas nécessairement là. Ce qui explique que le latin est traduit, hein, le terme, par d'abord le grec, par ténos, et puis le latin, virgo, par vierge. D'accord ? Je reviendrai là-dessus. Mais donc, là-dessous, il y a la mystérieuse Vierge attendue depuis des générations et des générations qui devait enfanter le Messie. Cette Vierge est fiancée à, dit le texte, à un homme. Sa situation n'est donc pas la même que celle d'Élisabeth, sa cousine mariée depuis de longues années avec Zacharie. En Luc 1,7, ils n'avaient pas d'enfant pour la raison qu'Élisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Donc, le couple de Zacharie et d'Élisabeth renvoie à quel autre couple que nous avons vu durant notre périple ? Le couple Abraham et Sarah. Ce n'est pas le cas de Joseph et de Marie. Leur couple est jeune, virginal, nouveau. Leur relation renvoie non pas à l'histoire d'Abraham et de Sarah, non pas d'abord à l'histoire d'Abraham et de Sarah, mais à celle du premier couple de l'humanité, le couple des origines à l'aube des temps. Joseph est présenté comme un homme, aner, traduction grecque de ish, pour Adam. Comme dans tout mariage, la scène initiale de la Genèse se rejoue. Souvenez-vous aussi de ce que nous avions vu avec Moïse, dans le terrible génocide, tout d'un coup, un petit moment de fraîcheur et de bonheur, un homme s'en alla prendre une femme de la tribu de Lévi, etc. Vous vous souvenez ? À chaque mariage, nous nous sommes projetés en Genèse 2, 1, 2, et donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aussi 1, 2. Donc ici, si vous voulez, c'est aussi la scène initiale qui se rejoue, d'Adam et d'Ève. Marie s'apprête à se laisser conduire vers Joseph, comme Ève s'est laissée conduire vers Adam. Bref, Joseph et Marie ne sont pas présentés comme des individus solitaires. Non, ils sont en profonde relation l'un avec l'autre, comme l'étaient Adam et Ève. Quand l'ange, dit le texte, entre auprès d'elle, de Marie, il sait bien qu'il ne s'adresse pas à une femme qui se rêve en solitaire, si vous voulez, mais une femme en alliance. Un être relatif à un autre. Marie, fiancée, s'approche, sa présence vient qualifier, en quelque sorte, la solitude de Joseph, elle l'illumine de sa lumière virginale. Et l'ange respecte infiniment cette relation, c'est quelque chose qui, en travaillant le texte, m'a frappé de plus en plus. Il ne la nie pas, bien au contraire. Elle constitue en quelque sorte cette relation de Marie et de Joseph, l'écrin de son annonce d'une fécondité au-delà de toute imagination. J'ajouterai de leur fécondité à tous les deux. Mais continuons la lecture, je passe à mon point 2. Comment cela sera? Nous sommes dans une dynamique d'alliance. Marie, à la différence de Zacharie, ne doute pas. Zacharie dit, mais c'est pas possible. Il dit ça en d'autres termes. Marie, elle dit, comment cela sera? L'ange lui dit, donc ce sera. La question, c'est comment? Vous avez là une petite jeune fille pétillante d'intelligence et qui veut collaborer au projet divin. Elle croit que cela va se réaliser. Cela sera. C'est fort quand même. Bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur, s'exclame Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, en 1,45. Elle, dont le mari est devenu muet parce qu'il n'a pas cru. D'accord ? Elle croit en quoi ? Ça, c'est la question. Elle croit en quoi ? Elle croit dans l'annonce de l'ange, mais dans cette annonce, il y a comme une énigme au niveau de la paternité. En effet, comme dit le texte, vous le connaissez, je ne l'ai pas relu, tu concevras un fils, il sera appelé fils du Très-Haut, David sera son père. Tu concevras un fils, il sera appelé fils du Très-Haut, David sera son père. Comment mettre toutes ces vérités ensemble? Marie croit-elle que Joseph sera le père, Joseph fils de David sera le père de l'enfant? Mais alors, comment est-ce qu'il pourrait être fils du Très-Haut? Vous voyez? Comment articuler ces différentes vérités? Est-ce que Marie croit que Joseph ne sera pas le père de l'enfant? Selon Étienne Grenet, qui a écrit un bel article à ce sujet-là dans l'article, Marie va élargir, comme il l'écrit, le champ des possibles. Elle croit que le fils annoncé sera à la fois fils du Très-Haut et que David sera son père. Mais elle ne voit pas, donc elle s'ouvre à la possibilité d'une paternité de Joseph, mais elle ne voit pas comment les choses peuvent se faire. Et donc la façon de poser la question « comment cela sera-t-il ?» c'est une manière, dans une humilité et une intelligence stupéfiante, de se rendre disponible à Dieu. De présenter à Dieu sa propre limite. Je ne vois pas comment les deux peuvent fonctionner ensemble. Nous verrons que nous aurons la même attitude chez Joseph. Comme dit Étienne Grenet, elle ne sait pas comment unifier en elle-même toutes ces vérités. Bref, Marie répond à l'ange sans mettre Joseph de côté. Je ne connais pas d'homme signifie je vis dans une chaste continence avec mon fiancé. Comment donc l'enfant sera-t-il aussi fils de David, fils de Joseph. Une petite parenthèse pour informative. Dans la tradition juive, selon le droit matrimonial juif, il y avait deux étapes. D'abord l'étape des fiançailles, où les époux vivent séparément l'un de l'autre. Ils sont vraiment mariés. Si l'époux meurt, la jeune femme devient veuve. Pour une séparation, il faut un contrat dans cette première étape. Donc ils sont vraiment mariés. Au niveau des relations conjugales, en général, les époux en ont, notamment pour s'assurer de leur fécondité. Et puis un an plus tard, plus ou moins, en grande cérémonie, l'épouse vient chez l'époux. D'où la question, pourquoi Marie est-elle vierge, même étant dans cette première étape de, qu'on appelle fiançailles, mais qui est déjà un mariage, d'accord ? C'est le début du mariage. Ce n'est pas les fiançailles au sens que nous les connaissons aujourd'hui. Hein. Chez nous, les fiançailles, dans la tradition judéo-chrétienne, les fiançailles sont c'est une première étape avant le mariage, d'accord ? Là, ce qui est appelé fiançailles, c'est déjà le mariage, si vous voulez. Ce n'est pas simplement une promesse d'alliance, c'est une entrée dans une alliance définitive. Mais qui... Alors pourquoi est-elle vierge ? Bon, là il y a plusieurs interprétations possibles. Désire-t-elle se consacrer totalement à Dieu dans le cadre du mariage, avec le consentement de Joseph ? Bon, voilà. Il y a une longue tradition à ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, retenons ceci, c'est que Marie se présente à l'ange avec tout ce qu'elle est pour Joseph et avec tout ce que Joseph est pour elle. Marie s'avance vers son Dieu, on en veut dire, avec son Joseph. D'accord. En elle, la vocation de la femme, Isha, s'accomplit pleinement, sans vouloir mettre la main sur sa maternité. Elle est dans une disponibilité. Elle n'a pas de solution à cette énigme. Et on comprend, elle ne peut pas l'avoir. Cette solution doit venir d'ailleurs, doit venir par le haut. Seul l'esprit est en mesure de dévoiler l'unité entre ces vérités appréhendées jusqu'ici sous le signe du multiple. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Luc 1, 35. L'Esprit Saint viendra sur toi et sur celui auquel tu es lié intimement. Ainsi, l'Esprit, par cette solution qui vient d'une révélation, qui ne vient pas de quelque chose de Marie, la double lignée est possible, celle de fils de David et fils du Très-Haut. Ce faisant, l'Esprit Saint n'éloigne pas Joseph et Marie l'un de l'autre, mais les unit plus profondément, plus intimement. Alors, je pourrais poursuivre ce récit, mais je voudrais nous laisser le temps davantage de scruter le récit de la Sainte de Matthieu, que nous avons moins l'habitude d'entendre. Enfin, nous l'entendons souvent, mais de scruter. Je m'inspire ici notamment d'un article de Agnès de Lamarzelle qui a enseigné ici pendant longtemps dans la NRT en 2013, qui discerne dans ce texte quatre parties bien délimitées. Je pense que vous la connaissez ce texte, je ne vais pas vous le lire. Première partie, c'est la situation initiale. Et puis nous aurons les trois autres parties qui forment un triptyque avec l'annonce de l'ange, c'est marqué au tableau, l'annonce de l'ange, la prophétie et l'exécution de Joseph. Enfin, l'exécution de Joseph qui exécute le dessein divin. Tout d'abord, la situation initiale. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Deux points. Donc on commence par Jésus. voici comment fut engendré Jésus-Christ. Souvenez-vous que juste avant, il y a la généalogie de Jésus. Abraham engendra Isaac, il engendra Jacob, etc. etc. Donc, or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Nous avons eu un souvenez de la fois passée, l'ordre de la généalogie, Matthieu, c'était l'ordre inverse. On aboutissait à Joseph, l'époux de la Vierge Marie, de qui fut engendré Jésus. Voilà la fin de la généalogie. Maintenant, on déploie cette généalogie, mais c'est le texte dans sa littéralité même qui nous le montre. Il y a là une rupture, et on part de Jésus, on passe par Marie et on aboutit à Joseph. D'accord ? Donc c'est le récit de la généalogie à la séquence suivante. Joseph, Marie, Jésus. Et maintenant nous commençons dans un autre genre littéraire, le genre littéraire du récit, un récit d'annonce. Jésus, Marie, Joseph. D'accord ? Comme déploiement de cette généalogie, comme exploration. Jésus est référé à Marie, sa mère, seule concernée par l'épisode de la conception. Et il y a quand même un certain choc chez le lecteur que nous sommes. On n'a plus l'habitude des chocs à force d'avoir entendu ces textes, mais c'est quand même choquant de se dire, voici comment fut engendré Jésus. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Ce choc est semblable à celui du verset 16 où Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc. Et puis donc, on est à l'actif, il engendra. Et puis quand on arrive à Jésus, on passe au passif divin, il fut engendré. Donc de nouveau, une discontinuité. Sa maternité de la Vierge Marie, qui commence ce récit, est d'emblée située à l'intérieur d'un lien d'alliance conjugale qui était déjà reconnu au verset 16. D'accord ? Souvent, encore une fois, l'intuition que j'essaie de développer ici, c'est de montrer ce que nous avons essayé d'explorer a contrario dans les nouveaux modèles familiaux, c'est que pour le mariage dans la Sainte Famille, la filiation du Christ s'enracine dans la conjugalité, d'une façon unique dans l'histoire de l'humanité, dans le lien conjugal entre Joseph et Marie. D'accord ? J'essaie de le montrer dans les textes mêmes. Okay. Donc la maternité de Marie est d'emblée située à l'intérieur d'un lien d'alliance conjugale qui était reconnu au verset 16. Marie est une femme en alliance. Cette maternité est expliquée au verset 18. Avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle fut trouvée enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. J'ai traduit action de l'Esprit-Saint, le ek. Ek pneumatos agio. C'est la cinquième occurrence depuis le début de l'évangile de Matthieu de cette petite particule ek. C'est exactement la même particule que pour les quatre femmes de la généalogie. Souvenez-vous, Tamar et les autres, là, la femme d'Ori, celle d'Ori, etc. Chaque fois, ek, venant d'eux. De ces quatre femmes inattendues, qui ont engendré de façon inattendue, et qui vont transmettre et qui ont transmis la lignée messianique, et dans laquelle Dieu a joué un rôle central. Alors, voyons maintenant Joseph. Donc, vous voyez donc la généalogie avec ce crochet descendant-ascendant entre le récit généalogique et le récit de l'annonce faite à Joseph. Voyons maintenant comment est présenté Joseph. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Alors, le point, il s'agit de bien suivre maintenant, le point de départ de l'interprétation que je vous propose, qui est une interprétation enracinée dans le texte, c'est le fait que Joseph est un juste. Il appartient à cette lignée de justes, de ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Comme Noé, par exemple. En Genèse 7.1, le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste à mes yeux parmi toute cette génération. » Comme Abraham. En Genèse 15.6, Abraham crut au Seigneur qui le compta comme justice. N'oublions pas qu'il a été présenté comme fils d'Abraham, venant d'Abraham, Joseph. En quoi consiste précisément la justice de Joseph dans cette situation qui est la sienne? A-t-il des doutes sur la Vierge Marie, sur son épouse? La soupçonne-t-il d'adultère, comme certains exégètes, comme par exemple le père Bonnard, tend à le penser? C'est d'ailleurs une interprétation assez courante, qui convient bien à notre mentalité psychologisante, romantique et mélodramatique. D'accord ? Bon. Mais si c'était le cas, en toute justice, il n'avait que deux possibilités. Soit d'appliquer Deutéronome 20, 20 et 21, ou Deutéronome 22, 23, 27, à savoir la lapidation. Première possibilité. Joseph, en tant que juste, ne respecte pas cette loi. Donc ça, c'était une première possibilité s'il voulait appliquer la justice de façon très stricte. Une deuxième possibilité, ça aurait été de la répudier. Et toute répudiation est d'elle-même nécessairement publique. De parler d'une répudiation non publique est un contresens. Il n'est pas possible. Une répudiation est un acte légal officiel devant témoin, avec un biais de répudiation. Une répudiation secrète est inconnue dans la tradition biblique. C'est d'ailleurs pourquoi, à strictement parler, on ne peut pas traduire Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de, non pas de la répudier en secret, mais de la renvoyer en secret. Ça va ? Donc, tout en restant, en n'excluant pas que Joseph soit passé par un certain moment de doute, etc., en n'excluant pas cela, mais personnellement, s'il avait vraiment des doutes sérieux, et s'il voulait être juste, il n'avait que ces deux possibilités-là. Alors, est-ce qu'il connaissait l'origine divine de l'enfant ? On peut imaginer, comme le fait le Xavier Léon Dufour, un autre exégète, que c'est un couple extrêmement lumineux, Joseph et Marie, ils se sont parlé, etc. Et donc, il connaîtrait cette conception virginale. Je cite Agnès de Lamarzel, « Rien dans le texte ne permet de l'affirmer. Il nous semble, écrit Agnès, que le texte montre simplement Joseph dans sa pureté de cœur. Ce qu'il ne sait pas, il ne se l'imagine pas, et il cherche à faire la volonté de Dieu avec ce qu'il sait. » On retrouve un peu la même ligne interprétative que Étienne Grenet dans dans l'annonce faite à Marie. Le texte est sobre au niveau des sentiments intérieurs. Joseph et Marie donc sont des êtres extrêmement lumineux, c'est à ce niveau-là qu'il faut nous hisser si nous voulons comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc, Joseph agit en fonction de ce qu'il sait. Il n'est pas le père de l'enfant, et donc, il ne veut pas se l'approprier. Il ne veut pas se prétendre le père de l'enfant. Dans la vision limitée qui est la sienne, il ne sait pas en fait. Peut-être que Marie lui a parlé, peut-être qu'il ne lui a pas parlé, etc. Mais il est objectif. Si Marie lui a parlé, c'est peut-être une raison supplémentaire de dire que, qu'il a accueilli ce qu'il lui a dit, c'est une raison supplémentaire de ne pas vouloir l'accueillir chez elle et donc se prétendre être lui-même le père du Messie. Vous comprenez ? Prenant de ce fait la même, ça paraît peut-être un petit peu subtil, hein. Et vous allez me dire, oui, bon, enfin, etc. Mais nous sommes avec des êtres de lumière, vous voyez. Et autour du mystère de la Sainte Famille, il y a, il faut pouvoir, c'est plein de délicatesse et de finesse. Et donc, il faut pouvoir accepter de s'en approcher avec délicatesse et finesse, autant que possible. D'accord. Donc, la vision de Joseph est limitée et il accepte cette vision. Et donc, il a imaginé une solution. Puisqu'il ne veut pas s'approprier, comme Abraham avait voulu s'approprier la paternité en procréant Ismaël, il avait voulu se construire une paternité, à l'inverse, Joseph ne veut pas qu'on puisse imaginer qu'il est le père du futur Messie, ou de l'enfant que porte son épouse. Ce qui contraste avec la vision omnisciente du narrateur, de celui qui écrit l'évangile, de l'évangile, et du lecteur que nous sommes, puisque nous sommes au courant de choses que Joseph n'est pas au courant au moment du songe. Ça va ? Grâce à la généalogie, hein, grâce aussi à la mise en situation. Hein ? On sait plus de choses que Joseph, nous. Hein ? Rien qu'avec le texte. Bon. D'où une tension dramatique. Dans le récit, le juste, au nom de la justice, ne risque-t-il pas de faire échouer le dessein divin, révélé au lecteur au verset précédent, à savoir l'insertion dans la lignée davidique. Ça va ? Vous me suivez ? J'essaie d'être clair, hein, mais Alors, je poursuis. Point suivant, l'annonce, le point 2. Or, comme lui formait ce dessein, voici l'ange du Seigneur lui apparut en songe en disant « Voici ». Alors, la situation est bloquée. Enfin, en tout cas, il a à vue humaine, voilà la solution qu'il a trouvée, de la renvoyer discrètement, en secret. Et la solution, comme pour la Vierge Marie, vient d'ailleurs. Elle vient de Dieu, à travers son ange. Mais à la différence de Marie, à l'intérieur d'un songe. Comme son ancêtre Joseph. Souvenez-vous, hein, les fameux songes de Joseph, l'homme au songe, Genèse 37-19. Et puis nous sommes aussi, non plus chez Saint Luc, mais chez Saint Matthieu, qui aime beaucoup faire intervenir Dieu dans le cadre de songes. C'est très mathéen, si vous voulez, comme mode de procédure. Matthieu, en effet, utilise à plusieurs reprises cette expression qui lui est propre pour établir un contraste entre la décision de Joseph et le dessein divin. Regardez aussi pour les mages, hein, avertis en songe, hein, même chose. Pour la femme de Pilate, au moment du procès de Jésus, oh, il faut pas, elle intercède auprès de son mari, j'ai eu un songe, condamne pas ce juste, d'accord ? Voilà, c'est la façon dont Matthieu s'exprime. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Je vous propose, non pas quelque chose, une autre explication, mais une explication supplémentaire, d'accord ? Donc, qui n'est pas contradictoire avec les choses. Quand vous faites un rêve, quand je fais un rêve, qu'est-ce qui se passe ? Ben, souvent, un rêve, c'est... Il y a une situation qui a été problématique pendant la journée ou pendant la semaine, alors ça s'entrechoque, on ne voit pas comment tout se met ensemble, tout ça, ça travaille dans l'inconscient, le sommeil permet d'être détendu, etc. Et puis, tout d'un coup, il peut arriver que quand on se réveille, pouf, hein, mystérieusement, un travail s'est fait en nous, et que donc, on a la solution. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, qu'on se lève le matin avec l'esprit, tout d'un coup, beaucoup plus clair. Parce que pendant la nuit, toute une série de choses ont travaillé en nous. Alors, je pense que chez Joseph, il y a quelque chose d'analogue. Il est dans une situation qui ne compte. Voilà, il ne voit pas comment mettre ensemble toutes ces vérités. Ensemble. et ça travaille en lui. Alors, à la différence d'un rêve, d'un pur rêve, où c'est un travail humain, où d'ailleurs les choses purement humaines n'existent pas complètement non plus, Dieu est toujours d'une façon ou présente. Mais là, il s'agit d'un songe, où Dieu, à travers son ange, intervient vraiment et aide à faire ce travail. Voyez. Donc, enfin, moi, je dois vous avouer que cette explication, enfin, profondeur psychanalytique, enfin, moi, en tout cas, m'aide à comprendre à quel point nous sommes dans une dynamique d'alliance. Voyez. Dieu ne prend pas les personnages, ni Marie, ni Joseph, comme des marionnettes qu'il agite comme des pantins, mais entre à l'intérieur de leurs histoires, de façon différente. Et donc, en quelque sorte, lui montre une nouvelle issue auquel il n'avait pas imaginé, qu'il n'avait pas pensé, ou qu'il n'avait pas osé, peut-être qu'il l'avait pensé, mais qu'il n'avait pas osé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à travers ce songe, Joseph est peu à peu engendré à sa paternité. Comment s'adresse l'ange à Joseph ? Il l'appelle par son nom, Joseph. Il le reconnaît dans son identité propre, comme un homme à part entière. Il y a un film comme ça absolument abominable, je crois que c'est La Tour Infernale, où il y a un homme qui est amoureux d'une femme et la femme l'appelle tout le temps machin, chose, d'accord ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Je trouve ça horrible, quoi, d'accord ? Vous voyez, même pas, aucune reconnaissance de l'identité. L'ange s'adresse par son prénom, Joseph, comme un partenaire d'alliance. On peut se poser la question, si il ne, une petite parenthèse, mais s'il ne s'était pas adressé avec lui par son nom, s'il n'avait pas confirmé dans son nom, est-ce qu'il aurait été capable de donner un nom à Jésus, comme père ? Est-ce qu'il n'aurait pas été pris du syndrome des Dupont ? Ça, c'est une autre chose, selon Hergé. Alors, il l'appelle Joseph, mais il lui dit, en plus, « fils de David ». Il le reconnaît dans sa filiation. Pour être un bon père, il faut d'abord être un bon fils. Pour inscrire son enfant dans l'ordre des générations, il faut au préalable accepter, en tout cas pacifier, la relation avec nos ancêtres. Nous ne sommes pas des commencements absolus. C'était le problème de la paternité autocentrée et fusionnelle de Térac, souvenez-vous. C'était vraiment son problème. Et là, l'ange commence à celui auquel il va demander de donner le nom de Jésus, de l'appeler par son nom. Et par son nom, reçu de son, enfin, dans sa filiation, fils de David. Jésus, d'ailleurs, sera appelé souvent fils de David, hein, dans l'Évangile. Fils de David. On sait maintenant d'où il tient ce nom. Pour une oreille juive, ou biblique, cette expression « Joseph, fils de David » fait un peu sursauter. En effet, elle allie deux traditions. La tradition du Messie souffrant, inaugurée par Joseph, qui est vendu en esclave, et qui, etc., oui, qui est rejeté dans un puits, vendu par esclave, etc., bon. Et qui interprète les songes de Pharaon, et avant de différents autres dignitaires, et celle de la lignée plus glorieuse du Messie Davidique. Oui. Deux traditions qui, dans ce petit verset, enfin, dans ces trois mots, Joseph, enfin quatre mots, Joseph, fils de David, vous avez là une concentré extraordinaire. Ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme. C'est le Joseph, fils de David, poursuit le texte, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme. Le verbe craindre, désigne cette attitude de respect absolu devant Dieu et devant ses œuvres. La sagesse commence avec la crainte de Dieu. Si c'était quelque chose de... c'est différent du hein, je traverse la route et puis d'un coup il y a une voiture qui va très vite parce qu'il fait glissant. Et d'un coup, ça c'est quelque chose d'automatique, qui ne s'apprend pas, c'est spontané. Et la crainte, au contraire, est une attitude, la crainte au sens biblique du terme, est une attitude qui s'apprend. Et c'est le respect, c'est une attitude qui consiste à être saisi devant la grandeur de l'autre, avec un petit A et un grand A, et de vouloir le respecter absolument, d'avoir peur de le blesser. Donc je veux le respecter dans son identité. C'est bon que dans les couples, il y ait la crainte du conjoint. Non pas parce qu'il y aurait des violences, ça c'est pas bon, ça c'est pas la crainte au sens biblique du terme. Et en même temps, il faut aller plus loin que la crainte. Et la crainte, c'est vraiment cette attitude, il y a une sorte de respect. Joseph le juste a craint de s'approprier l'enfant que portait sa fiancée et par conséquent a craint de s'approprier sa fiancée, celle avec qui il était dans un mariage dans le sens évolutif du terme. En fait, l'attitude de Joseph a été inverse à celle d'Adam en Genèse 3. Adam prend le fruit. Et Joseph ne veut pas prendre le fruit par excellence qu'est l'enfant et sa mère. Il ne veut pas mettre la main sur sa femme et sur l'enfant. C'est ça. Derrière ce petit mot craindre, il y a tout cela. C'est pour ça qu'il avait décidé de la renvoyer. Nous avons vu ça tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui a réfléchi. Il en avait formé le projet. Une belle expression, hein. Former le projet. C'est-à-dire fermement décidé. Joseph est tout le contraire d'un rêveur. N'en déplaise à Georges Brassens, et c'est la fameuse chanson sur le pauvre Joseph. Bon. Moustakim. Merci. Par cette phrase, ne crains pas de prendre auprès de toi ou chez toi Marie, ta femme, il le confirme dans sa sponsialité, dans sa conjugalité, y compris quotidienne, dans ta maison, chez toi. On passe à la deuxième étape du mariage. Elle est vraiment ton épouse. Il la reconnaît comme ta femme. C'est un des sens du mariage chrétien, cela, c'est de recevoir son époux, son épouse, de plus loin que soi-même. La phrase sacramentelle par laquelle l'échange des consentements se fait, tu as privilégié, c'est non pas je te prends comme épouse, mais je te reçois comme épouse et me donne à toi pour t'aimer. D'accord ? Et là, il reçoit vraiment Marie, son épouse. Ta place est d'être à ses côtés et vice-versa. Car certes, poursuit l'ange dans le songe, l'enfant qui fut engendré en elle, passif divin, qui fut engendré en elle, est de l'Esprit Saint. Mais elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus. Pour justifier son appel à ne pas craindre, l'ange commence à rejoindre Joseph dans son incompréhension, dans sa ténèbre lumineuse, et lui révèle la solution qui ne pouvait pas venir de lui. Elle enfantera un fils et tu appelleras son nom. Même la phrase, enfin, il faut s'arrêter sur ce petit morceau de phrase. Elle enfantera un fils et tu appelleras son nom. C'est sa manière à lui d'être intimement uni au mystère qui est en train de se dérouler. À l'intérieur d'un renoncement total à une paternité biologique. Nous avons quelque chose du sacrifice que nous n'avons pas vu, hein, du sacrifice, plus précisément de la ligature d'Isaac qui se joue. Hein, lorsque Abraham est invité à renoncer totalement à sa paternité pour la recevoir de façon beaucoup plus profonde. Quelque chose d'analogue qui se joue ici pour Joseph. Tous deux parents, ensemble, mais différemment. La structure même de la phrase, mais Marie et Joseph, chacun à sa place, par rapport à Jésus, dans une parenté dans une réciprocité parentale précise. Elle enfantera un fils et tu appelleras son nom. Dans la tradition juive, celui qui donne le nom est réellement le père de l'enfant. Pas une sorte de sous-paternité. L'adoption légale n'est pas une fiction juridique. L'adopté devient véritablement fils. Joseph est donc invité à introduire Jésus dans sa lignée de ses ancêtres, dans sa lignée davidique, et plus largement, dans son appartenance à l'ensemble de l'humanité. Donc, nous pressentons un peu la puissance suratomique de cette phrase « Tu appelleras son nom ». Pouvoir de nomination. Il est invité au milieu du silence de la nuit. On est impressionné de voir qu'il y a que l'ange qui cause, hein, qui parle. Mais et Joseph est dans un silence étonnant. Il est invité à l'intérieur de ce silence de prononcer sans doute la parole la plus forte de toute l'histoire de l'humanité, de donner à Jésus son nom. Une parole au milieu d'un silence, ça résonne, hein. Et donc, peut-être, mais là je n'engage que moi, peut-être que le songe convenait encore mieux qu'une apparition immédiate, hein, à Joseph dans cette perspective. Il y a une référence, mais je laisse tomber, à Genèse 17, 19. Je la lis quand même. Mais Dieu reprit, oui, vraiment. Hein. Vous vous souvenez qu'Abraham avait eu quand même... C'était pas simple, la sponsorité et la paternité d'Abraham. Oui, vraiment, ta femme, Sarah, va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Cette parole se réalise avec celui qui a été présenté en Matthieu 1, 1, donc le premier mot de l'évangile, comme, souvenez, le fils de qui ? Le fils d'Abraham. C'est Abraham. Comme Abraham, il doit consentir à une mission paternelle déroutante pour lui qui passe par le renoncement à ce qu'il croyait être d'abord la volonté de Dieu. Il reçoit une paternité surabondante de Dieu à travers un radical dépouillement, une dépossession. Tu appelleras son nom Jésus, car lui sauvera son peuple, poursuit le texte, de ses péchés. Quel nom, Jésus ? Car lui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus signifie Dieu sauve. C'est impressionnant. Donc, ce petit enfant va sauver. Mais donc, ça veut dire qu'il est Dieu, non ? C'est un audacieux de dire cela. De dire que Jésus est Dieu sauveur. On est habitué à cela, hein ? Après 2000 ans de christianisme, mais il y a quelque chose de... Hein, il faut qu'on retrouve un peu le scandale des gens qui étaient dans la maison là, avec les pharisiens et qui voyaient Jésus qui pardonnait les péchés. Enfin, seul Dieu peut pardonner les péchés. Enfin, ça ne se fait pas. Enfin, oui. D'accord ? Il y a une audace, une révélation très 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 forte. Nous assistons là à un suraccomplissement de la promesse du roi sauveur, du Messie attendu, mais à un degré, c'est pour ça que je parle de suraccomplissement, enfin un degré qu'on n'avait pas imaginé. Alors, vu le temps qui nous reste, je passe très rapidement sur le point 3, la prophétie. Or, ceci tout entier est arrivé afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le Seigneur. Donc, nous avons vu que Joseph était un juste. Donc, le juste se définit par quoi ? Avec un souci perpétuel d'ajuster son comportement, ses pensées, sa parole, son regard, sa vie au dessein divin. Et là, par la référence, comme dans chez Luc, comme nous avons vu tout à l'heure, à la prophétie d'Isaïe, cet aspect de justice et d'accomplissement est souligné. Je passe au point 4, l'exécution de ce qui a été perçu dans le sommeil. Or, dit le texte, Joseph se réveillant de son sommeil. Si votre enfant vous dit « je me suis réveillé de mon sommeil », vous lui dites « c'est pas nécessaire de dire de ton sommeil ». On sait bien que si tu te réveilles, c'est de ton sommeil. Bon. Pourquoi cette redondance? Ce sommeil se réfère à ce sommeil surnaturel dans lequel se produit, à plusieurs moments dans la Bible, une action divine forte. Souvenez-vous de la torpeur dans laquelle Dieu plongea Adam lorsque son épouse fut façonnée. Je suis toujours dit, c'était vraiment pas le moment de dormir. Le moment de ne pas dormir, c'est là. Bon. Ben non. Un moment où il y a une œuvre divine très, très, très forte qui se fait, ben, il y a une sorte de torpeur. Cela rappelle aussi le sommeil, la torpeur qui tombe sur Abraham le jour où le Seigneur conclut une alliance avec lui, en Genèse 15-12. Donc, cette redondance montre que ce sommeil n'est pas simplement un sommeil au sens naturel du terme. Il l'est aussi, mais pas simplement. Il y a quelque chose de... Le texte nous suggère plus. Joseph fit comme l'ange lui avait prescrit. C'est une formule extrêmement familière dans l'Ancien Testament. Il répond avec des actes. Il obéit parfaitement à l'œuvre recréatrice de Dieu, dans la continuité de celle d'Abraham, de David et de tout le peuple des justes. Il collabore intimement, de façon active, au drame de l'incarnation. Enfin, au drame au sens, à la dramatique divine. Il prend part, à sa place, à la nouvelle création de l'homme, à la venue du nouvel Adam. Si vous voulez, Marie avait dit « Je suis la servante du Seigneur », Joseph, lui, il est le servant en acte. D'accord ? Il parle par des actes. Cette réponse se décline par trois propositions. Tout d'abord, il prie auprès de lui sa femme. Il introduit sa femme dans son humble palais, lui le charpentier descendant de David. Deuxièmement, et il ne la connaissait pas jusqu'au moment où elle enfanta. Donc il reprend et il poursuit ce mode relationnel virginal avec Marie jusqu'au moment où ne vise pas à signaler un terme dans le temps, comme on le voit par exemple en 2 Samuel 6, 23. Michal n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Dire qu'elle n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort ne signifie pas qu'au jour de sa mort, tout d'un coup, elle a eu des enfants. D'accord ? Faut pas mésinterpréter le texte. D'accord ? En outre, le texte « connaissait » est à l'imparfait, qui est le verbe de la durée, et non parfait, qui serait une action ponctuelle faite dans le temps. Il ne l'a connu pas jusqu'au loin. On aurait dit, il ne l'a connu pas. D'accord ? Donc, il y a là, en creux, la révélation de la virginité, en creux, hein, il faut d'autres éléments aussi, de la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. Et il appela son nom Jésus. Donc, pour moi, c'était très, très lumineux, ces trois actions de Joseph. Prendre Marie auprès de lui, avoir cette relation en Dieu, virginale, et nommer Jésus. Les trois vont ensemble. Il y a une articulation intime entre sponsalité, une sponsalité précise, et paternité, à travers la virginité. Voilà, alors je suis tenté de faire quand même mon petit appendice là, Joseph et Jésus à 12 ans. Dans le regard de Joseph juste et obéissant, que Joseph juste et obéissant, à l'inverse d'Adam, porte sur Jésus, on peut lire une double reconnaissance. Dans le regard que, enfin, vous voyez, quand un père regarde son fils, c'est beau, hein. Donc, quand Joseph regarde son fils, on peut y discerner une double reconnaissance. Tout d'abord, celle qu'il est vraiment son fils, adoptif. Et puis, celle d'une reconnaissance qui vient du Saint-Esprit. Et donc, Joseph est garant des deux, si vous voulez. Et tout cela dans le lien sponsal avec Marie, sa femme, qu'il a prise auprès de lui. Donc, quand Joseph regarde Jésus, il y a dans ses yeux une conscience vive et émerveillée de l'identité de Jésus. Et aussi de sa mission. Il va la lui révéler au fil des jours et des années. Et le jeune Jésus ne peut pas ne pas le percevoir. Et c'est sous ce regard qu'il va grandir, que sa personnalité va se structurer et se déployer. Comme dit Jean-Paul II dans sa belle lettre Redemptoris Custos, au numéro 21, la paternité de Joseph ne découle pas de la génération, et pourtant, c'est ce que nous avons vu dans le texte est sans ambiguïté à ce sujet-là, et pourtant, elle n'est pas apparente ou simplement substitutive, mais elle possède pleinement l'authenticité de la paternité humaine du rôle de père dans la famille. Alors là, après, vous en faites ce que vous voulez, et moi, j'ai toujours été frappé de voir que les enfants ont souvent le timbre de voix de leurs parents. « Allô ?» quand vous êtes au téléphone, etc. Vous voyez, ou bien parfois des attitudes même physiques, quoi. Enfin, vous voyez, vous dites « Ah oui, ça, c'est... » Même parfois, vous trompez, quoi, d'accord, hein. Mais je pense que Jésus devait avoir peut-être le même timbre de voix que Joseph. Devait avoir la même façon de regarder les gens, avoir la même façon d'accueillir les pauvres. Il devait y avoir pas mal de pauvres qui passaient chez eux à Nazareth, d'accord ? Bon, j'en sais rien, hein, mais c'est une vraie paternité, si vous voulez. C'est une vraie paternité. C'est pas une paternité de seconde zone. Alors, on peut poursuivre, hein, cela. Par la suite, Joseph et Marie sont désignés par Matthieu comme ses parents, en 2:27. Puis son père et sa mère, en 2:33. Marie, en personne, dira à Jésus, retrouvé au temple, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, c'est magnifique, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » Entre parenthèses, c'est pas réservé, c'est un couple extrêmement lumineux, et Jésus est extrêmement lumineux aussi, il n'a jamais commis le moindre erreur, et l'angoisse est pourtant présente. Donc, je veux dire, si on s'angoisse un peu avec les ados, c'est normal, d'accord ? Bon. Et comment répond Jésus ? Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon Père ? Première parole du Christ chez Saint Luc. S'agit-il d'un rejet de la paternité de Joseph ? S'agit-il d'un conflit de paternité, comme certains ont écrit ? Tu mets un peu dans la peau de Joseph, on peut se permettre ça de temps en temps. Hein. D'un côté, Joseph a peut-être ressenti durement cette réponse, comme Abraham lorsqu'il a entendu Dieu lui demander de lui offrir sa paternité. D'accord ? Donc, il y a peut-être un petit cric. Bon. D'un autre côté, cette réponse est aussi du Christ le fruit de l'éducation que Joseph lui a donnée avec Marie, avec ce regard juste et craintif, au sens biblique du terme. Et donc, cette réponse est le couronnement de son éducation. Et donc, il a dû sentir une joie extrêmement profonde. Comme l'écrit Jean-Paul II, dans son homélie du 9 octobre 1994, Joseph est l'homme avec qui Dieu le Père, d'une certaine façon, partage sa propre paternité. Il existe entre eux une sorte d'alliance en paternité dans laquelle Joseph a joué un rôle plus grand qu'Abraham. Fin de citation. En Joseph, la paternité de Dieu et celle de l'homme s'inscrit dans la prolongation l'une de l'autre. Et souvenez-vous, Saint Paul, qui aimait bien hein, appeler ses fidèles mes enfants. Hein. Saint Paul avait un instinct paternel puissant. Hein. Hein, il dit ceci, je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité tire son nom. Éphésiens 3, 14, 15. Et vous voyez bien à quel point l'enjeu est absolument décisif pour tout l'évangile et pour la mission du Christ, qui est de nous montrer le Père. Il dira en Saint Jean, qui me voit, voit le Père. Mais ce n'est pas une paternité abstraite, il a élaboré cette paternité avec le visage de Joseph, qui révélait le visage de son Père. Pas exclusivement Joseph, mais principalement Joseph. Voilà, en conclusion, ce n'est qu'une introduction au mystère de la Sainte Famille. J'ai voulu simplement, à travers cette introduction, montrer comment, dans le mystère de cette famille, qui n'est pas simplement un modèle, mais qui est en quelque sorte aussi la matrice de toutes les familles, hein, en laquelle la promesse faite à Abraham s'accomplit pleinement. Comment sponsialité, donc conjugalité et parenté s'articulent intimement à l'intérieur d'une relation profonde avec Dieu. Et c'est par là que je voudrais terminer. Je vais un petit peu fort en disant ça, mais j'assume. La Sainte Famille fait partie en quelque sorte du mystère de l'incarnation. En assumant l'humanité de Jésus, le Verbe de Dieu assume aussi ses relations constitutives. Donc, en d'autres termes, Jésus ne s'est pas incarné, l'Esprit Saint et Marie, toute seule. Il s'est incarné à l'intérieur de la relation entre Joseph et Marie. Et a grandi, s'est déployé à l'intérieur de cette relation entre Joseph et Marie. Voilà, alors je vous remercie beaucoup pour votre présence tout au long de ce cours. Et voilà, vous souhaite une bonne continuation dans l'exploration sans fin de l'Écriture sainte et dans ce dialogue que l'Écriture instaure et invite entre nos propres familles, nos propres vies et elles-mêmes. Voilà, je vous remercie.